le livre le dernier livre de l'Ancien Testament avant le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 2. On va lire les deux premiers versets. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. » Amen. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et après avoir pris le temps de méditer sur ces moments que le Seigneur a pris après la résurrection pour rencontrer les disciples, je crois que c'est bien qu'on puisse aujourd'hui ouvrir la parole sur cette déclaration prophétique. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Alors, avant sa venue, ou le fait qu'il va revenir pour nous chercher, on va simplement regarder qu'avant sa venue, il est dit de lui, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Avant sa venue sur la terre, il était dans le ciel de gloire. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et nous, ici-bas, nous étions totalement à l'opposé, sans Dieu et sans espérance dans le monde, avant sa venue. Avant sa venue, il est le principe de la création de Dieu, c'est-à-dire la référence. Tout a été fait par lui, pour lui, par rapport à lui, en lui. Et nous étions devenus par nature des enfants de colère comme les autres, avant sa venue. Avant sa venue, Ésaïe dit de lui, on l'appellera Père éternel, Dieu tout-puissant, avant sa venue. Et nous, de nos pères, nous avions hérité une vaine manière de vivre, à tel point que nous vivions sans Dieu et sans espérance. Avant sa venue, la nécessité est apparue de nous chercher, nous sauver. Alors il a dit, me voici, envoie-moi. Et c'est cela qui va déclencher la venue du Seigneur. Et nous étions comme ce docteur de la loi qui rencontre Jésus, et qui dit « lui pour lui en son temps » et que les uns les autres nous aurions pu dire pour nous dans notre temps « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» avant sa venue. Lui, il est venu, et dans Ésaïe 53, il est très clairement exprimé qu'il savait ce qu'il attendait, avant même sa venue. Et nous ne savions pas ce qu'il nous attendait, ni pour notre vie ici-bas, et encore moins pour l'éternité. Et puis il est venu, sa première venue, né dans une étable, mais il le savait, puisqu'il savait ce qu'il attendait. Et nous, parce qu'il est venu, alors il y a désormais quelque chose qui vient transformer notre être après la repentance et la conversion, ça s'appelle la nouvelle naissance. Et il nous accorde ce miracle extraordinaire, avant même de rentrer dans l'éternité, de pouvoir naître dans le monde, de pouvoir naître de nouveau. À tel point que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nos noms sont inscrits dans les cieux, et nous sommes déjà les réceptacles de l'Esprit Saint qui demeurera avec nous éternellement. Dès sa première venue, le Seigneur a radicalement modifié les choses. Il vient pour la première fois dans sa maison, physiquement parlant, je veux dire. Il rentre dans le temple, et voilà qu'il trouve dans sa maison des voleurs, et il va les chasser. Et nous, il veut faire de nous une habitation de Dieu en esprit et en vérité. Alors, je ne vais même pas détailler ce qu'il y avait dans nos cœurs qui devait être sa maison, avant sa venue. Parce qu'il y avait peut-être plus que des voleurs. Mais il est venu, et comme il a chassé dans le temple les voleurs, pour faire de sa maison une maison de prière pour toutes les nations. Ensuite, il veut faire de nous une habitation de Dieu en esprit. Lors de sa première venue, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais c'était voulu. Il ne venait pas pour faire apparaître sa gloire, Il venait pour faire apparaître son amour. Il venait pour faire apparaître la justice de Dieu qui condamne le péché, mais qui veut sauver le pécheur. Mais nous, dès sa première venue, parce que son œuvre peut se faire dans nos vies, il fait de l'Église la plus belle de ses œuvres. Et pourtant, il y a des choses belles dans la création. Mais dans la nouvelle création, tout est encore plus beau que dans la première. Et quand il fera un nouveau ciel et une nouvelle terre, j'oserais dire d'une certaine manière que la nouvelle création, elle est à l'inverse de la première. Dans la première, il a créé le ciel et la terre, etc. Et au final, il crée l'homme. Dans la nouvelle création, c'est dans l'autre sens que tout se passe. Il fait de nous un homme nouveau, une femme nouvelle, née d'en haut, née de nouveau. Et puis un jour, il créera de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et nous rentrerons pour toujours dans cette présence. Dans le livre des Cantiques, lorsqu'il parle de la bien-aimée, il dit la plus belle des femmes. Quand dans le Nouveau Testament, il parle de l'Église, c'est la fiancée. Et rien n'est comparable à l'Église. C'est la plus belle œuvre de la création. Et elle est en cours de réalisation. C'est extraordinaire de voir un tableau fini. Je crois que c'est bien aussi de voir l'artiste en train de le peindre. Parce que quand vous arrivez au début où il fait les esquisses, lui il sait où il va, vous, pas trop. Moi qui ne suis pas du tout féru en la matière, suivant ce qu'il va faire avec son tableau, il faut un certain temps pour arriver à comprendre. Parce que si c'est simplement un paysage, on y arrive. Si c'est un objet, on y arrive. Mais si c'est d'autres expressions artistiques, alors il faut un petit peu plus de temps. Eh bien, la Bible nous dit que les dominations et les autorités plongent leur regard dans l'Église pour y connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, le divin artiste, avec ces hommes et ces femmes? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire avec ces 12 disciples? Je vais en faire des apôtres. Je vais en faire des colonnes dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie? Mais je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Laisse-moi aller au bout. C'est ça qui est important quand l'artiste est en train de faire son chef-d'œuvre, que ce soit une sculpture ou autre. Il faut le laisser finir. Il faut le laisser arriver au bout. Et donc nous sommes en cours de réalisation, en cours d'achèvement. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique. On est dans le cas de sa première venue. À la croix, il est abandonné de tous lors de sa première venue. Et nous, il nous dit, au moment où lui va être abandonné de tous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui m'arrive ne vous arrivera jamais. Quand les uns et les autres sont infidèles à son égard, il demeure fidèle lors de sa première venue. Il savait ce qu'il attendait. Et nous, nous ne savions pas ce qui nous attendait quand pour la première fois quelqu'un nous a parlé du Seigneur. Une voisine pour notre famille, je ne sais pas pour vous. Peut-être un ami, un membre de la famille ou autre. Mais vous ne saviez pas ce qui vous attendait. Mais le Seigneur, lui, savait l'œuvre qu'il voulait faire dans vos vies et qu'il est en train de parfaire. Et puis il est parti. Je nommerai cela son premier départ. Lorsqu'il part, il y a des ténèbres sur la terre. À cause de la puissance, de l'amour de Dieu qui se manifeste pour faire tomber sur lui le châtiment qui nous donne la paix, pour condamner le péché, pour effacer le péché, pour vaincre les dominations, les autorités, il ne peut pas y avoir plein ciel, plein soleil. Il y a des ténèbres sur la terre. Mais lorsque quelqu'un s'en va, premier départ, ça ne veut pas dire que pour nous, il y en aura un second. Il y aura une suite dans l'éternité. Mais pour faire le parallèle, pour nous, c'est vers le sein d'Abraham. Et nous avons cette histoire extraordinaire de l'évangile de Luc, au chapitre 16, qui n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie. Il y a cet homme, Lazare, qui meurt, et qui, à la différence de Jésus, lorsqu'il donne sa vie sur la croix, lui, il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Jésus va être mis par des hommes dans un tombeau ici-bas, mais Lazare est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le Seigneur est en train de réaliser une œuvre qui va tout transformer dans notre existence de telle manière que pour nous, ce ne sera plus jamais pareil après sa venue et après son premier départ. À ce moment-là, Le voile dans le temple est déchiré. Les sépulcres s'ouvrent. Et pour nous, il bouleverse tout. La terre, le ciel, l'éternité, plus n'est jamais, rien n'est jamais pareil. Il bouleverse tout. Ça a dû... On n'a jamais trop apporté de message sur ce point-là. Parce qu'en fait, je ne vois pas trop comment on pourrait apporter un message des sépulcres qui s'ouvrent. Et plusieurs qui ressuscitent et qui rentrent dans la ville. Alors, ça doit, et je ne le dis pas sous forme de plaisanterie, mais en plus de la surprise générale, ça doit être compliqué. Parce que je ne sais pas à l'époque, il faudrait à la limite se renseigner, savoir s'il y avait des certificats de décès. Comment on fait pour refaire un certificat de décès? C'est compliqué. Imaginez que l'héritage ait été déjà partagé. Il lui revient frapper à la porte. Ça veut dire qu'ils sont remorts. Morts à nouveau. Ils s'y sont quand même ressuscités. Depuis combien de temps étaient-ils dans les sépulcres? Aucun renseignement. Combien de temps sont-ils restés vivants avant d'eux ne plus être vivants? Parce qu'on ne va pas dire qu'ils sont remorts, ça ne se dit pas. Mais il faut quand même dire quelque chose. Ils sont ressuscités. Et ils n'ont pas vécu éternellement sur la terre. Donc à un moment donné, ils ont quitté ce monde. Ça a tout bouleversé. Pour nous, il a tout bouleversé. L'ordre établi, la compréhension des choses, l'acceptation des choses. Ah, mais on vous a mis en terre la semaine dernière. Tout le monde a pleuré. Oui, seulement à cause de ce qui s'est passé à la croix. Il va essuyer toutes les larmes des yeux. Plus rien ne sera plus jamais pareil. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. On le dépose dans un sépulcre neuf. Et on roule la pierre. Ça, c'est son premier départ. Ça, c'est la fin qu'on lui attribue sur la terre. Et pour nous, il ouvre les portes du ciel et il nous prépare une place. Et elle est tellement bien, cette place, elle est tellement belle, cette place, que lorsque nous rentrerons là-haut, ça commencera, alors si le début est ainsi, que sera la suite, par le festin des noces de l'agneau. Son premier départ sur la terre est un départ qu'on n'aurait jamais voulu souhaiter à personne. Mais pour nous, il a bouleversé complètement l'ordre établi. Il sait tout ce qu'il doit accomplir. Et quand il l'aura accompli, il va dire « Tout est accompli ». Mais sa volonté pour nous, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et voilà pourquoi il est venu. Voilà pourquoi, lors de son premier départ, les choses se sont passées ainsi. Seulement, ce n'est pas fini. L'histoire ne s'arrête pas là. Va revenir. Et ça, c'est la deuxième venue. Dans la première, ou lors de la première, de sa première venue, il est né dans une étable, parce que qui a cru, qui a reconnu, qui a accepté, qui s'est incliné, il a fallu que des anges viennent dire à des bergers, voilà ce qui se passe, faites quelque chose. Allez le voir. Et là, ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Mais lors de sa deuxième venue, ça sera complètement différent. Il va venir en un clin d'œil au son de la trompette de Dieu, nous dit la Bible. Alors pour nous, qui sommes entre la première venue et le premier départ, et la seconde venue, parce que s'il y a eu du temps pour annoncer la première venue, il y a du temps pour annoncer la seconde, c'est le temps de la grâce. S'il y a eu du temps pendant sa première venue, ce sera différent lors de sa deuxième venue. En un clin d'œil, en un instant, au son de la trompette de Dieu, alors prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et tout cela, c'est une réalité qui ressort de la parole, qui pourra soutenir le jour de sa venue. Voilà comment les choses étaient avant sa venue, autant dans le ciel que sur la terre. Voilà comment les choses se sont déroulées lors de sa première venue, autant sur la terre que dans nos vies. Voilà ce qui a été bouleversé, transformé lors de son premier départ. Et maintenant, nous sommes dans l'attente de sa deuxième venue. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Donc Jésus dira, veillez donc, puisque vous ne savez. On va le lire, Matthieu 24. Alors, c'est par rapport à Malachi, c'est juste le livre d'après. J'attends le moment où tu lui apporteras un message dans le livre du prophète Amiquée. Je me rappellerai à ton bon souvenir. Matthieu chapitre 24, verset 36. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc. Lors de sa première venue, qui a cru, qui s'est agenouillé, mais là, tout genou fléchira. Toute langue confessera. Après quoi vient le jugement? Alors, de toute façon, tout genou fléchira devant lui. Tout genou pliera devant lui. La seule question qui se pose, c'est quand? Soit vous le faites maintenant, soit ce sera le jour du jugement dernier. Parce que le jour du jugement dernier, devant celui qui sera le juge éternel, il n'y en a pas un qui se tiendra debout. Et tous ceux qui disent, mais moi je m'expliquerai avec Dieu, rendez-vous à ce moment-là, je vais vous écouter. Personne ne pourra dire quoi que ce soit. Parce qu'on l'a médité quand on a fait l'étude biblique sur ce qui est écrit dans ces autres livres qui seront ouverts. Et le terme grec utilisé, c'est grapho, qui est la base de graphologie. Ça veut dire que ce qui est écrit dans ces livres, ce n'est pas Dieu qui l'écrit, ce ne sont pas des anges secrétaires d'Aptilo qui l'écrivent, c'est nous. Reconnais-tu ton écriture? On est capable aujourd'hui de confondre des accusés sur la base de cette science, la graphologie. Eh bien, Dieu dira, reconnais-tu ta vie? C'est personne qui l'a écrit, c'est toi. Et déjà aujourd'hui, ça se passe, sauf que ce n'est pas avec le stylo et la plume, c'est que tout ce que nous avons fait, c'est écrit dans la mémoire des uns et des autres. Parfois, avec le temps, ça s'est estompé. Par contre, quand ça a été dur, il n'oublie pas. Et à l'inverse, pour nous, c'est pareil. Ce que les uns et les autres ont pu nous dire ou nous faire, ça s'est écrit. Pour certaines choses, on les a oubliées, mais pour d'autres, on ne peut pas les oublier. Eh bien, dans ces livres, ce sont les choses importantes et sérieuses et graves qui s'écrivent. Elles ne peuvent être que effacées et oubliées de la part de Dieu. Sans quoi ça demeure. Et si ça demeure, alors, devant ce qui est écrit, celui qui est concerné, non seulement il aura la bouche fermée, mais les deux genoux par terre. Voilà. Et il n'y aura pas d'autre position que celle-là. Mais lors de sa deuxième venue, tout genou fléchira. Lors de sa deuxième venue, c'est la résurrection, la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Cette résurrection veut dire quoi? Ça veut dire changement et départ. Pour tous ceux qui seront morts en lui, changement et départ. Pour tous ceux qui seront vivants, ça veut dire changement et transformation. Voilà. Nous qui serons restés, nous serons enlevés avec le Seigneur à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et tout cela en un instant. En un instant, les morts en Christ ressusciteront, les vivants seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Non seulement dans cet instant, il y aura ça, mais dans cet instant, il y aura les changements finaux. Parce que, en un instant, nous serons transformés par rapport à la finalité que Dieu a prévue pour notre vie. Voilà. Et à partir de là, eh bien, tout se décidera sur la base de ces livres. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Alors la question ce matin, avant sa venue, c'est... Où en sommes-nous? Où est-ce que nous sommes inscrits? Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Alors moi, je l'ai noté en terminant. Soyez prêts pour le grand départ, et pour l'éternité. Mais soyez prêts. Parce qu'on a eu du temps pour, et ça a été annoncé longuement, sa première venue. On a eu du temps pour la voir se dérouler. On a eu du temps pour voir son premier départ. Parce qu'il a eu toutes ses heures sur la croix. Mais lors de sa deuxième venue, ça va aller à la vitesse de l'éclair. Prêt ou pas prêt? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sois prêt pour le grand départ. Et si vous me permettez cette petite note-là, est-ce que vous avez bouclé la valise? Qu'avez-vous mis dans la valise pour le grand départ? Et on sait très bien qu'on n'a besoin de rien, puisque c'est dans notre cœur qu'il doit tout y avoir. Que le Seigneur soit béni.